RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, ce 1er décembre est la date butoir pour que la bande de Gaza revienne dans le giron de l'autorité palestinienne. Cela fait 10 ans que cette enclave côtière est gérée par le Hamas. Le mouvement islamiste y a pris le pouvoir au terme de violents affrontements en juin 2007. Mais depuis le mois de septembre, Hamas et Fatah, les deux grands partis palestiniens, ont entamé un rapprochement. Le gouvernement palestinien est venu tenir un conseil des ministres dans la bande de Gaza et le Hamas a cédé le contrôle des frontières à l'autorité palestinienne. En vertu de l'accord signé au Caire le 12 octobre dernier, le gouvernement basé à Ramallah doit reprendre le contrôle de l'ensemble des secteurs ce vendredi. Une reprise en main par l'autorité palestinienne qui, bien que théorique pour le moment, fait espérer aux Gazaouis une amélioration de leurs conditions de vie. Gaza, l'espoir d'une vie meilleure. Grand reportage de Guilhem Deltey et Hassan Jaber. Réalisation Pierre Chaffanjou.
Lorsque pour la première fois depuis plus de 2 ans, le gouvernement est venu tenir un conseil des ministres à Gaza début octobre, des dizaines de milliers de personnes s'étaient massées le long des routes pour saluer ce retour. Hamed Aliya était parmi eux. Ce jeune homme de 27 ans avait fait le déplacement avec 8 de ses amis.
Je suis venu ici pour accueillir le premier ministre Rami Hamdallah et pour voir si nous aurons une réconciliation nationale. Si Dieu le veut, cette fois-ci, cela réussira. Nous aurons une réconciliation et nos problèmes seront réglés.
À l'annonce de ce rapprochement entre les deux factions ennemies, les Gazaouis ont pris espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Amna Al-Ashkar a 75 ans, mais début octobre, elle a eu soudainement l'impression d'en avoir moins.
Je suis très heureuse. 11 ans, vous savez. 11 ans que nous vivons dans des conditions très difficiles. Mais maintenant, je me sens rajeunir.
Pour beaucoup de Gazaouis, l'annonce du rapprochement était synonyme de la fin des difficultés du quotidien. Ils rêvaient d'un retour de l'électricité, de la fin des coupures d'eau et d'une reprise économique qui se font toujours attendre.
Nous n'avons rien. Ça, c'est le pain pour les enfants.
Abou Ahmad ouvre les tiroirs de son réfrigérateur les uns après les autres. Pratiquement tous sont vides. Il n'abrite qu'un peu de pain, une aubergine et quelques piments. Puis il désigne l'entrée de sa cuisine.
Là, on a des pommes de terre, des oignons et c'est tout. Ces sacs-là viennent de l'ONU et ces olives, c'est le salaire que nous avons eu pour avoir aidé à la récolte.
Sur le pas de la porte se trouvent 3 bonbonnes de gaz, mais elles sont vides, précise Abou Ahmad. Il n'a pas d'argent pour les remplacer.
On manque d'eau, d'électricité et on n'a pas de quoi acheter de la nourriture. Parfois, je ne mange que du pain avec des épices, du zaatar.
Abou Ahmad travaillait dans le bâtiment en Israël, mais cela fait 17 ans qu'il a perdu son travail.
De temps en temps, je travaille un jour ou deux seulement, mais je n'ai jamais retrouvé de poste à plein temps. Mon fils est marié et lui aussi est à la maison toute la journée. Il n'y a pas de travail. Si je vais à l'épicerie pour acheter à crédit, il ne me donne rien car il sait que je n'ai pas d'argent. De temps en temps, je peux rembourser mes dettes, seulement quand je reçois des aides publiques.
Vous espérez que la situation économique va s'améliorer avec la réconciliation ?
Si Dieu le veut, j'espère que je vais pouvoir remplir mon réfrigérateur.
À ces difficultés financières s'ajoutent celles du quotidien de Gaza. Ces dernières années, les habitants de l'enclave ont dû s'habituer à vivre avec de moins en moins d'électricité. La situation est devenue particulièrement critique depuis le mois d'avril dernier, lorsque l'autorité palestinienne s'est engagée dans un bras de fer avec le Hamas autour du contrôle de la bande de Gaza.
Aujourd'hui, nous avons eu de l'électricité depuis 6 heures du matin et ça va s'arrêter à 10 heures. Puis, nous n'aurons plus rien jusqu'à 22 heures. Nous aurons alors à nouveau 4 heures d'électricité jusqu'à à peu près 2 heures du matin. Puis plus rien jusqu'à 14 heures. C'est tous les jours comme ça.
Des coupures qui ont un impact fort sur le quotidien des Gazaouis, témoigne la femme d'Abou Ahmed.
Parfois, quand l'électricité arrive pendant la nuit, on se lève à minuit. On fait cuire le pain, on fait tourner la machine à laver parce qu'il y a plus de courant à ce moment-là. Et d'autres fois, c'est à 2 heures du matin.
Mmh. Ces coupures touchent toute la bande de Gaza. L'ONU considère désormais qu'en moyenne, les Gazaouis n'ont que 4 à 6 heures d'électricité par jour. Pas assez pour des habitants qui, quand ils le peuvent, cherchent d'autres sources d'approvisionnement pas nécessairement autorisées. Youssef Abou Soultan habite dans le centre-ville de Gaza.
Ça, c'est ma ligne illégale. Vous la voyez, la petite, là? Là, c'est le point de départ des deux lignes. Si vous regardez bien, il y a des lignes qui partent vers la droite et d'autres qui arrivent de la gauche. Et j'ai fait installer ma ligne illégale sur ces fils-là. Et là, c'est la ligne légale. Et c'est partout comme ça à Gaza. Et de temps en temps, ils viennent et ils coupent les lignes. Mais après, on les remet. C'est ce qu'on fait tout le temps.
Cela fait un an que Youssef Abou Soultan contourne ainsi les règles. Grâce à cette double source d'approvisionnement, son domicile bénéficie de 8 heures d'électricité par jour. Mais aux coupures de courant s'ajoutent aussi celles qui interviennent dans la distribution d'eau courante. D'après l'ONU, les Gazaouis n'ont que 3 à 5 heures d'eau tous les 5 jours. Et pour Youssef Abou Soultan, la vie est rythmée par les pénuries.
Par exemple, moi j'ai une pompe pour faire monter l'eau jusqu'à mon étage, le quatrième. Mais si j'ai pas d'eau, je fais comment moi? Je dois attendre. Et c'est pour ça que tout le temps, je pense à l'électricité, afin de pouvoir remplir les réservoirs là-haut. J'y pense tout le temps. Et je ne sors plus de la maison, seulement pour aller à la mosquée. Ça, c'est ma vie.
Youssef Abou Soultan est un fonctionnaire de l'autorité palestinienne. Et celle-ci, dans le bras de fer qui l'oppose au mouvement islamiste, a décidé en avril dernier de réduire les salaires de ses employés de 30%. Pour autant, il demande en priorité au président palestinien de reprendre les livraisons d'électricité.
Si je pouvais appeler Abou Mazen en personne, la première chose que je lui dirais, ce serait « Rétablissez l'électricité, s'il vous plaît. » Ensuite, je lui demanderais de nous verser l'intégralité de nos salaires. Ils ont été coupés de 30%.
Ces coupures d'électricité ont un impact économique important. Les entreprises fonctionnent avec des générateurs, mais l'essence nécessaire pour les faire fonctionner coûte cher. Et plusieurs ont dû réduire leur activité. Mais cette pénurie a désormais aussi des conséquences sanitaires. Sans électricité, les eaux usées peuvent difficilement être traitées et elles sont aujourd'hui rejetées à la mer sans avoir été filtrées.
Avant, pendant l'été, beaucoup de personnes venaient à la plage et allaient se baigner. Mais à cause du siège et de la situation à Gaza, la municipalité a ouvert les égouts pour qu'ils se jettent directement dans la mer. Et cela a eu un impact sur le nombre de personnes qui venaient à la plage.
Ibrahim Chamalakh est maître nageur sur une plage de Gaza. Dans sa tour en bois, il surveille les nageurs, mais il garde aussi un œil sur la couleur de l'eau.
Mon travail est de surveiller les gens et de leur dire quand il est interdit d'aller se baigner. Et quand je sens que la mer est très polluée, je leur recommande de ne pas aller nager. Aujourd'hui, la mer est bonne, elle est très bonne. Mais quand elle est polluée, l'eau devient rouge. Ça peut se voir à l'œil nu.
Certains baigneurs ont fini à l'hôpital et cet été, les médias diffusaient des recommandations appelant à ne pas se baigner. Mais si la mer est déconseillée, le simple fait de se tenir sur la plage peut être désagréable, témoigne ce sexagénaire qui tient une petite cafétéria au bord de l'eau.
L'odeur n'est pas supportable, surtout lorsqu'ils ouvrent les vannes des eaux usées. En général, c'est le soir quand les gens viennent prendre l'air frais. Ils viennent manger chez moi, mais l'odeur n'est pas soutenable. Et alors ils s'en vont.
Et pour ce restaurateur aussi, le retour de l'électricité dans la bande de Gaza est une priorité. Mais malgré le rapprochement en cours, l'autorité palestinienne n'a pas levé ses restrictions imposées à l'enclave.
Ici, nous sommes dans le principal hall de production. Nous avons les lignes pour les biscuits et pour les gaufres.
Ma Manal Hassan est la directrice exécutive de l'entreprise Al Aouda, la plus grande biscuiterie de la bande de Gaza. Elle produit chaque jour 45 tonnes de gâteaux secs, céréales et glaces, mais elle n'a sur place que les installations techniques et la main d'œuvre. Tout le reste vient de l'extérieur de la bande de Gaza et transite actuellement par Israël. Un parcours compliqué avec le blocus imposé au territoire contrôlé par le Hamas.
Les containers ne sont pas autorisés à entrer dans Gaza. Donc nous devons louer un entrepôt à Beersheva, côté israélien. Les camions apportent les containers du port d'Ashdod à cet entrepôt. Là, on fait le déchargement. On renvoie les containers vides à Ashdod et la marchandise est mise sur d'autres camions jusqu'au poste frontière. Pour chaque container, ça nous coûte 2000 shekels, 700 dollars. Ce n'est pas une petite somme.
Avant le blocus, Al Aouda exportait plus de 60% de sa production vers la Cisjordanie. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus faire sortir ses biscuits de la bande de Gaza et elle doit se contenter du marché local. Al Aouda a réduit sa production de 26 à 10 jours par mois. Et comme les particuliers, l'entreprise doit aussi composer avec les coupures d'électricité. Derrière le hall de production des biscuits se trouve une pièce remplie de machines à l'arrêt. C'est la ligne de production des glaces.
Et c'est une ligne entièrement automatique. Vous avez la partie de confection, les moteurs et deux machines de conditionnement. Cette année, on l'a faite fonctionner moins de 30 jours. Depuis 10 ans, on ne fait marcher cette ligne qu'une fois par an. 2 mois si nous avons de la chance, parce qu'il n'y a pas d'électricité, que 4 ou 6 heures. Mais la glace ne peut pas supporter 14 heures sans réfrigération.
Toutes les matières premières d'Al Aouda passent par le poste frontière de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza. Un point de passage autrefois contrôlé par le Hamas, mais désormais occupé par l'autorité palestinienne. En reprenant le contrôle le 1er novembre, le gouvernement de Ramallah a annoncé la suspension des taxes d'importation prélevées par le mouvement islamiste. La mesure devait soulager les entreprises qui payaient jusque-là des taxes à la fois à l'autorité palestinienne et au Hamas. Mais Manal Hassan ne voit pas de différence.
Tous les gouvernements aiment les taxes, qu'ils soient Hamas ou Fatah. Hier, je me suis battue avec le nouveau personnel de Kerem Shalom. Ils appliquent une autre taxe sous une autre forme. Ils ont mis fin aux taxes du Hamas, mais ils demandent aussi de l'argent. Hier, pour un camion de farine, j'ai payé plus que ce que je payais avant au Hamas.
Aymad Arafat habite dans un immeuble assez cosy de Rafah, à l'extrémité sud de la bande de Gaza. Ce chef d'une entreprise d'importation reçoit dans son immense salon. Sur le mur, il a fait représenter en peinture l'esplanade des mosquées de Jérusalem, le symbole auquel se rattachent les Palestiniens qui veulent faire de la partie est de la ville leur capitale. Aymad Arafat est un homme d'affaires aisé, mais avec le blocus, il a vu son activité ralentir et la tendance, dit-il, s'est accentuée ces derniers mois.
Pour l'industrie du bâtiment, je faisais venir 5 camions de plâtre par mois. Mais depuis 5 ou 6 mois, on n'importe plus. On a cessé car nos clients n'ont plus d'argent. Leur chèque n'était pas approvisionné. Aujourd'hui, je ne peux plus rien leur procurer. Quand je demande à être payé, ils n'ont plus d'argent.
Son frère Wissam, lui, a dû fermer l'entreprise de cosmétiques qu'il avait montée 17 ans plus tôt.
Le principal problème de ce pays ne vient pas des importateurs ou des commerçants. Le problème vient de la population. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter ce qu'on fait venir de l'extérieur. Ils n'ont pas d'argent.
Mais il y a 17 ans, les gens avaient de l'argent.
Oui, ça a changé ces 11 dernières années.
Depuis l'arrivée du Hamas.
Oui, le Hamas, des menteurs, le Fatah, des menteurs. Ce sont les gens qui sont les grands perdants.
Lorsqu'elle a repris le contrôle des postes frontières, le 1er novembre, l'autorité palestinienne avait promis de rouvrir celui de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Pour les Gazaouis, l'ouverture de la frontière sud marquerait un changement important.
Le poste de frontière de Rafah représente notre principal espoir pour la période à venir. S'il ouvre, l'humeur des gens à Gaza changera. Ils auront alors un futur. Mais pas juste un jour ou deux. Non, il faut qu'ils ouvrent un mois ou deux. Et Gaza changera alors véritablement.
Avec la promesse du Hamas de céder le contrôle du territoire, les Gazaouis rêvent d'un allègement du blocus qui leur est imposé. Dans les rues de la bande de Gaza, les espoirs s'expriment à haute voix. Mais cette phase de transition politique est aussi source d'interrogation pour les 43 000 fonctionnaires qui travaillaient pour le gouvernement du mouvement islamiste. Hesham Skeik est l'un d'entre eux. Ce jeune trentenaire travaille pour Ar-Rai, l'agence de presse officielle du gouvernement Hamas à Gaza.
Je suppose que le gouvernement de Ramallah fermera l'agence et la radio Ar-Rai. Nous n'existions pas avant. L'agence officielle du gouvernement est Wafa. Je pense que nous serons mariés à Wafa.
Les bureaux d'Ar-Rai sont situés dans le bâtiment du ministère de l'Information. Dans un coin de la pièce, une télévision diffuse la chaîne Al-Quds, réputée proche du Hamas. Mais Hesham Skeik se définit lui comme un journaliste indépendant, non affilié au mouvement islamiste. Et il compte sur cette réputation pour obtenir un poste dans la future agence de presse officielle.
Beaucoup de gens écrivent des rapports sur notre travail, sur nous. Qui est Hesham ? Je le sais et j'espère qu'ils nous donneront ce à quoi nous méritons.
If they give us what we deserve.
Mais l'autorité palestinienne a déjà plus de 60 000 fonctionnaires dans la bande de Gaza. Ils perçoivent toujours une partie de leur salaire, mais le gouvernement de Ramallah leur a demandé de ne pas travailler pour les autorités de facto. Depuis 10 ans, beaucoup attendent donc chez eux le retour de l'autorité palestinienne dans le territoire. Mohamed Akal est l'un d'entre eux. Officiellement, il fait partie des forces de sécurité, de la garde présidentielle précisément. Mais depuis la prise de pouvoir du Hamas, son uniforme est resté au placard jusqu'en septembre dernier.
J'ai gardé mon uniforme militaire à la maison. Et quand ils ont annoncé la réconciliation, je l'ai immédiatement ressorti.
Mohamed Akal montre fièrement une photo sur son téléphone. Après 10 ans d'inactivité, l'uniforme lui va toujours. Et en septembre, le trentenaire a repris l'entraînement physique pour être en forme lorsqu'il sera appelé.
Je suis très content de bientôt retrouver mon travail au sein des forces de sécurité. Et je suis heureux d'accueillir l'autorité nationale, de réunifier Gaza et la Cisjordanie. Pour le moment, personne ne nous a donné de consignes. Mais nous aurons un emploi après les prochaines phases.
Deux mois après l'annonce de ce rapprochement entre les deux grands partis palestiniens, Mohamed Akal n'a toujours pas de nouvelles de sa future affectation et son uniforme est retourné dans un placard. Le sort des plus de 100 000 fonctionnaires des deux camps est censé être réglé par un comité technique. Celui-ci doit rendre ses conclusions en février et pour l'heure, deux mois après la promesse d'une réconciliation, les Palestiniens attendent toujours de sentir le vent du changement. Gaza, l'espoir d'une vie meilleure, un grand reportage de Hassan Jaber et Guilhem Delteil, réalisation Pierre Chaffanjon.
شمشم بمخدتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا وسلم سلم عبلادي تربة بي وجدادي سلم سلم عبلادي تربة بي وجدادي وبعد العصفور الشادي بيغرد لعودتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض تحوم عم تستنضر عودتنا هدي يا بحر هدي